Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alto. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite de l'intervention prévue qui a eu lieu lundi concernant la place des personnes handicapées dans la société. Le titre de cette intervention s'appelle « Vers une société inclusive ». Voilà, je vous remercie et je vous souhaite, ça durera à peu près une heure. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous revoilà avec ce nouveau temps de formation à distance. Donc aujourd'hui, je vous propose la suite. Alors, plus ou moins la suite, ceux qui n'ont pas pu écouter la première intervention pourront tout à fait suivre, il n'y a pas de difficulté. Concernant la place des personnes handicapées et en particulier la notion de société inclusive. Mais pour commencer, je vous propose... comme je l'ai fait lundi, d'écouter une petite chronique de Madame Nicole Ferroni sur France Inter. C'est parti.
Nicole Ferroni, on me dit, Nicole, que vous êtes épatée.
Ben oui, écoutez, je suis un petit peu épatée par les dernières nouvelles qui concernent l'AAH. Alors l'AAH, qu'est-ce que c'est? Ben pour rappel, l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, une allocation que perçoivent, comme son nom l'indique, des adultes handicapés, qui est versée par la CAF et qui est un minima social censé compenser une incapacité de travail. Donc par exemple, admettons qu'au cours de cette chronique, je devienne épatée vraiment, c'est-à-dire que je perde mes pattes, mes bras, parce que moi je bouge beaucoup les bras pendant les chroniques, et admettons voilà, qu'en parlant, je m'emballe. Attention Augustin, et qu'avec la force centrifuge, paf, mes bras se décrochent, traversent le mur, plouf, tombe dans la Seine. Je vais donc à la fois perdre mes bras, mais aussi la capacité à taper sur mon ordi, donc mon travail et mon salaire. Et c'est justement parce que je serai sans bras et sans sous que l'État estimera que j'ai le droit à cette fameuse AAH. Sauf si, et c'est ça que j'ignorais, sauf si il m'arrive cette chose affreuse, vous savez, cette chose qui nous achève quand on est déjà au fond du trou, à savoir l'amour, bien sûr. Oui, si en plus de perdre mes bras et mon travail, je tombais amoureuse d'Augustin Trapenard et lui de moi, ce serait une catastrophe. Alors vous me direz, bah oui, ce serait bizarre, mais ce serait peut-être le cas. Bref, vous me direz, bah non, Ferroni, ce serait bizarre, mais ce serait une chance, car l'amour vous donnerait des ailes, de la douceur, de l'espoir. Oui, mais vous vous dites ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas handicapé. Alors que si vous étiez handicapé comme moi, qui vais bientôt perdre mes bras, vous sauriez que dans le monde du handicap, l'amour amène beaucoup d'emmerdes, comme nous le prouve ce fameux mois de novembre. En effet, si le gouvernement nous rappelle que l'AAH augmente de 40 euros depuis le 1er novembre, passant de 860 à 900 euros, Madame Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, confirme quant à elle que 67 500 personnes handicapées ne verront pas un centime de cette augmentation parce qu'elles sont en couple. Alors vous me direz, mais quel rapport entre l'amour et la revalorisation d'un droit? Eh bien, j'ai appris que l'AAH, comme le RSA, est une allocation qui est conditionnée par le revenu du couple. C'est-à-dire que si, comme moi, vous êtes à la fois handicapé et en couple avec Augustin Trapenard, dès lors que votre conjoint touche 1000 euros ou plus, votre AAH va être rogné. Et s'il a la mauvaise idée de toucher 2200 euros, vous ne toucherez plus rien. Autrement dit, dès que je n'aurai plus de bras, l'État dira à Augustin de subvenir totalement à mes besoins. Au motif que, bah Nicole, vous êtes handicapée, vous ne voulez pas en plus être amoureuse. Et puis c'est comme le RSA, donc on ne voit pas pourquoi pour le handicap ce ne serait pas pareil. Sauf que moi j'ai envie de crier à l'État, mais le handicap ce n'est pas pareil. Car être handicapé c'est souvent être dépendant de son corps, dépendant d'une société qui ne nous inclut pas toujours. Donc quand il y a enfin une situation où rien ne dépend de rien, à savoir l'amour, prendre la personne handicapée pour la rendre dépendante de quelqu'un, son amoureux, et la transformer ainsi de chérie à charge, et lui dire « tu es à la charge de », ce n'est pas une jolie phrase d'amour. Surtout quand l'amour n'est plus là, car les personnes handicapées ne sont pas plus protégées que les autres des chagrins et des violences. Et ça, Madame Cluzel le sait bien, puisqu'elle a dit à la radio
« Il y a un rapport de l'ONU de 2016 qui fait état que 4 femmes en situation de handicap sur 5, 4 sur 5 subissent des violences ». Donc c'est double peine.
Eh oui, c'est double peine, car quand on est déjà sans amour et sans bras, et qu'en plus on est privé de sous par l'État, on fait comment pour échapper à la violence? Donc elle a raison, Madame Cluzel, c'est la double peine. Et quel dommage donc que cette même Madame Cluzel ait repoussé la proposition de loi numéro 805, portée par 80 députés pour rendre aux personnes handicapées en couple leur indépendance financière, donc leur sécurité, leur estime et leur amour, car en attendant, chaque jour, des milliers de personnes handicapées qui s'aiment renoncent à se marier, d'autres qui ne sont pas aimées renoncent à partir, leur amour est balafré, alors qu'avec ou sans bras, on devrait tous avoir le choix d'avoir ou pas la bague au doigt.
Merci Nicole Ferroni.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je la trouvais assez intéressante, cette petite chronique. On va démarrer donc cette intervention sur une société inclusive par quelques brefs rappels. Dans un premier temps, je voudrais vous rappeler effectivement que pendant de nombreuses années, à la suite de l'exclusion des personnes handicapées jusqu'au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, en fait, le mouvement qui s'est instauré dans la société française autour de la place des personnes handicapées est clairement apparu dans les années 70. Et ce mouvement, au départ, c'était un mouvement qui était nommé comme un mouvement d'intégration. Alors l'intégration, ça consiste généralement à proposer aux personnes handicapées une prise en charge, terme qu'on utilise encore malheureusement, à mon avis, bien trop, mais au sein d'espaces qui, eux, sont spécialisés et entourés de spécialistes. C'est pour ça que se sont créés beaucoup dans les années, je le rappelle, 50, des années 50 jusqu'aux années 2000, des établissements sociaux et médico-sociaux pour les enfants en situation de handicap ou les adultes. Donc l'idée, effectivement, c'est la question de l'intégration, c'est non plus l'exclusion, c'est-à-dire tout le monde se débrouille dans son coin, mais c'est bien la société française qui organise l'accompagnement, mais qui l'organise dans des espaces qui sont, eux, spécialisés. Alors, pour illustrer cette position, je prendrai un exemple extrêmement éclairant de ce qui s'est passé entre les années 70, 80, 90 et aujourd'hui. Cet exemple, je prendrai celui de ce que on appelle, de ce qu'on appelait en l'occurrence à l'époque, les classes localisées d'intégration scolaire, les CLIS. Alors, jusqu'en 2015, qu'est-ce qui se passait ? L'éducation nationale avait créé donc des CLIS, des classes qui accueillaient les enfants en situation de handicap. Le principe, c'est que les élèves handicapés étaient accueillis principalement au sein de cette classe. D'ailleurs, ils étaient inscrits dans cette classe. Et que si cela était important pour eux et possible, ils pouvaient parfois rejoindre une autre classe ordinaire de l'école pour des activités communes avec les autres enfants. En gros, l'enfant était inscrit dans la classe CLIS et puis il pouvait rejoindre une autre classe, la classe de CE2 de l'école. Pardon. Pas la peine de porter des masques, normalement ça passe pas par le son. Et donc, il pouvait donc rejoindre une autre classe pour des activités. Alors souvent, on était dans les temps d'accueil, le sport, la musique, etc. Évidemment, moins les savoirs fondamentaux que sont le français et le mathématique, par exemple. Mais uniquement si c'était possible et sur des temps très précis. Le reste du temps, ils étaient inscrits dans la CLIS. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2015 ? En 2015, ce dispositif CLIS devient ULIS. Alors, ULIS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Alors, peu importe le fait qu'on change le U en C ou le C en U, ça, c'est pas le problème. La question qui se pose, majeure, c'est ce I. Ce I, il est passé de intégration à inclusion. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est pas un changement uniquement cosmétique de terme pour faire à la mode. À partir de ce jour-là, les élèves en situation de handicap ne sont plus inscrits dans l'ULIS. Ils sont inscrits dans les classes ordinaires, dans la classe de Madame Truc ou de Monsieur Machin, en CE2, en CM1. Et la modification majeure, c'est que désormais, ils ne rejoignent l'ULIS que pour les matières pour lesquelles ils ont des besoins particuliers. C'est-à-dire que la question qui s'est posée, c'est un renversement total. Ils ne sont plus inscrits dans l'ULIS, ils sont inscrits dans la classe de CE2, voire de 6e, 5e, puisque ce dispositif existe aussi au collège, 5e A ou 5e B, et ils ne rejoignent l'ULIS que pour les savoirs. C'est-à-dire que la façon de présenter les choses est totalement renversée et à l'envers par rapport au dispositif précédent. Cet exemple, il est extrêmement caractéristique de la conception qu'on peut avoir de la place des personnes handicapées, en particulier des enfants, dans notre société. Mais une société inclusive, c'est aussi une société qui admet que des adaptations et une prise en compte de la différence peut produire des améliorations pour tous. Je répète, une société inclusive admet que des adaptations et une prise en compte de toutes les différences peut produire des améliorations pour tous. Je vais citer Charles Gardou dans son livre « La société inclusive, parlons-en » qui dit « Qu'ils soient architecturaux, sociaux, éducatifs, pédagogiques, professionnels ou culturels, les plans inclinés sont universellement profitables. » Pardon. Une société inclusive où l'inclusion, alors vous verrez que je suis assez en désaccord avec ce terme, mais je vais l'utiliser quand même parce qu'il me paraît quand même plus facile à comprendre pour tout le monde. L'inclusion n'est pas une intégration poussée plus loin avec plus de volonté. Ce n'est pas un plus d'intégration. C'est une façon totalement différente d'aborder les questions qui engagent l'ensemble de la société et non plus uniquement les spécialistes. Ces évolutions se sont accompagnées d'une évolution conceptuelle, avec le passage d'une approche biomédicale et individuelle de la situation des personnes handicapées, avec la prééminence de la déficience comme une cause explicative, à une approche sociale, une approche de droit, qui interroge la manière dont la société et ses diverses institutions conçoivent le handicap et accordent leur place aux personnes avec des corps différents. Ce concept... Pardon, excusez-moi. Ce concept d'inclusion vient ici mettre un point d'orgue, celui de la place de plein droit de toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques dans la société ou dans les organisations. Donc, l'inclusion, ça ne consiste pas à avoir une action a posteriori sur les effets des déficiences et sur les inégalités qu'elles produisent ou les incapacités. Ce serait plutôt de penser que toute personne, quelles que soient ses difficultés, la vieillesse, le handicap, la maladie, quelles que soient ses difficultés donc, et ses atouts, à sa place dans la société au même titre que les autres, et que la société doit pouvoir être construite pour accueillir tout le monde sans créer de catégorisation. Cette conception d'une société inclusive a trouvé son expression concrète il y a plus de 10 ans dans la législation française. Je vais maintenant faire un bref rappel du contenu de la loi 2502 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi ne fait pas référence explicitement à l'inclusion ou à une société inclusive. Cependant, les diverses dispositions qu'elle contient vont dans ce sens-là. L'un des premiers éléments notables, c'est le fait que pour la première fois dans la loi, il est défini ce que recouvre le terme handicap. J'en ai déjà parlé. Je vais préciser un peu en citant ce texte. Je cite le texte de loi de la loi 2005-102. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de la vie ou restriction pardon de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Alors, elle est un peu longue cette citation, je vous renvoie sur Internet pour essayer de la retrouver, je renvoie les étudiants sur les différents cours qu'ils ont pu avoir cette semaine. On perçoit quoi dans cette définition ? Un élément fondamental du mouvement inclusif. En effet, l'environnement entre clairement dans le processus de définition du handicap. Ce n'est pas la personne qui est handicapée, c'est bien la rencontre entre sa situation personnelle, sa déficience et son environnement. Si j'étais un peu caricatural, est-ce qu'on peut imaginer que si l'environnement d'une personne est entièrement adapté, transport, emploi, culture, loisirs, logement, et que de ce fait, elle peut entièrement participer à la vie en société, alors va-t-on encore considérer cette personne comme une personne en situation de handicap ? D'autres éléments de la loi 2005 viennent appuyer ce virage inclusif de la société française. Le premier, c'est le droit à la compensation. En effet, si l'on considère que l'environnement est lui-même facteur de handicap, alors il est indispensable de permettre à la personne d'avoir une compensation qui lui permette de réduire cet écart au maximum des possibilités. La compensation est prise en compte non pas simplement au regard de la situation pathologique de la personne, mais bien au regard de ses aspirations, de son environnement et d'un point essentiel, son projet de vie. Elle sera donc différente d'une personne à l'autre, d'un sujet à l'autre, même si leurs pathologies sont semblables. Mais la compensation pourrait être une démarche sans fin pour les personnes, si elle n'était pas corrélée à l'action portée sur la société elle-même. C'est ce que l'on appelle dans la loi l'accessibilité. La question de l'accessibilité ne s'est plus posée principalement en termes de recherche de solutions, mais bien en termes d'obligations. Par accessibilité, la plupart d'entre nous entendent la mise en place de rampes ou d'ascenseurs. Car quand on évoque l'accessibilité pour les personnes handicapées, chez la majorité des gens, c'est l'image d'un fauteuil roulant qui apparaît. Mais il est important de considérer que cette situation ne reflète qu'une toute petite part des handicaps en France. En effet, on estime que pour les seuls adultes de 20 à 59 ans, 4 600 000 personnes sont en situation de handicap, soit 14% de la population. Mais parmi ces personnes, on estime seulement à 13% ceux qui ont une déficience motrice, en sachant qu'ils ne sont pas tous en fauteuil roulant. Ça veut dire que les personnes déficientes motrices sont 13% des 14% de la population en situation de handicap. L'accessibilité doit donc être entendue dans une acception bien plus large, par la présence d'interprètes de langue des signes française dans les services publics et dans les entreprises, par des espaces de signalisation qui sont mieux repérés dans les bâtiments, par la généralisation des documents en FALC. Le FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. C'est un système de traduction des documents administratifs adapté aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. De plus, l'accessibilité concerne également tous les domaines de la vie sociale. La scolarité, l'emploi, le transport, les bâtiments, les nouvelles technologies. Et comme je l'ai déjà indiqué au début de ce chapitre, cette accessibilité en direction des personnes handicapées a un effet bien plus large sur l'ensemble de la population.
Yeah.
Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai choisi cette chanson, alors pas par hasard, alors rien à voir avec Bertrand Cantat, je vous dis tout de suite. Cette chanson, elle parle de notre place dans la société et surtout, je vous invite à aller voir le clip de cette chanson après mon intervention, voilà. Vous aurez, en fait, ce clip a été tourné avec l'ensemble des sourds de l'International Visual Théâtre de Paris. Donc voilà, il est entièrement en langue des signes française et je trouve que voilà, ça a éclairé pas mal cette intervention. Donc je reprends. Je vous disais que l'accessibilité en direction des personnes handicapées peut avoir un effet sur l'ensemble de la population et que cette accessibilité devait pouvoir, devait pouvoir regrouper des champs extrêmement larges et pas uniquement des rampes. La loi 2005, elle apporte également de nouvelles avancées sur d'autres points, avec l'obligation d'emploi, la création des maisons départementales des personnes handicapées, mais une des questions centrales, c'est la question des enfants à l'école. J'en ai déjà parlé, mais je vais préciser un petit peu ça. Cette loi, elle a invité le ministère de l'Éducation nationale à pouvoir donner les éléments suivants. Le service, je cite, le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Une approche nouvelle est consacrée. Quels que soient les besoins particuliers d'un élève, c'est à l'école de s'assurer de que l'environnement est adapté à sa scolarité. Je répète, quels que soient les besoins particuliers d'un élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Alors, je suis très conscient du fait que la loi est sortie en 2005, donc ça fait 15 ans. Cette disposition est encore difficile à appliquer pour autant. Comme j'interviens aussi auprès des personnes accompagnant des AESH, donc des personnes qui accompagnent des enfants handicapés, pour vous donner une idée, le nombre d'enfants d'AESH, donc qu'on appelait avant des AVS, en Haute-Savoie, en 2005, il était d'environ 80 AESH. L'année dernière, ils étaient 840. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup des enfants étaient accueillis en établissement médico-social sont aujourd'hui accueillis au sein de l'école. Alors, ce n'est pas sans poser de grandes difficultés pour connaître... des enseignants, je suis très conscient du fait que ça pose de grandes difficultés, mais n'empêche que le texte donné par le ministère de l'Éducation nationale est assez clair. Je rappelle un autre texte donné par l'Éducation nationale qui est une circulaire qui date de 2015. Alors, tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de tous. Tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser. Bon, c'est déjà pas mal de le préciser. Donc tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser. Ce principe d'une école inclusive qui ne stigmatise pas les difficultés mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire constitue le cœur du décret du 18 novembre 2014. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux difficultés de certains élèves mais de donner à tous les moyens de progresser en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées. Je répète parce que alors ça, dans l'éducation nationale, c'est quand même une révolution. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux difficultés de certains élèves, mais de donner à tous les moyens de progresser en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées. Vous avez vu la question qui se pose dans ce texte, il n'y a pas le mot handicap. Du tout, il n'est pas cité. On est sur un texte qui est vraiment dans une disposition d'école inclusive, c'est-à-dire que, en fait, que l'enfant soit handicapé ou pas, peu importe. La question, c'est quelles sont les difficultés d'un élève, qu'il soit handicapé ou pas, et comment l'école doit lui permettre de progresser en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées. Alors, je rappelle effectivement que cette disposition a encore beaucoup de mal à mettre en place malgré la très 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 grande volonté, en tout cas de ce que j'en sais, des enseignants de l'éducation nationale. Pour autant, la question des moyens, qu'ils soient humains, pédagogiques, formatifs, etc., se pose toujours autant. Donc aujourd'hui, nous vivons un changement de paradigme assez radical. Mais les changements sont longs à mettre en place sur le terrain. Et c'est normal. Pour autant, le développement de la mise en place d'une société inclusive semble faire l'objet d'un processus profond. Et en particulier dans le secteur social et médico-social, celui qui accompagne les personnes en situation de handicap. parce que ça modifie sensiblement les modes d'accompagnement. Au milieu d'une conception légale très généraliste qui s'appuie sur l'inclusion, il existe encore des domaines qui limitent les modes d'organisation. Aujourd'hui, le terme inclusion est bien trop souvent utilisé comme une extension du terme intégration, comme si c'était une façon, on va dire, d'insister. De faire plus. On utilise le terme inclusion dans le sens d'un mouvement qui rapproche des entités exclues. On construit l'inclusion comme une action en direction des personnes handicapées. Mais il est aujourd'hui nécessaire de ne plus utiliser le nom inclusion, mais bien l'adjectif inclusif. Et oui, parce que le mot inclusion sous-entend une action sur les personnes handicapées, mais non. Dans le système d'une société inclusive, c'est bien la société et ses divers domaines d'activité qui s'adaptent aux personnes, qu'elles soient d'ailleurs en situation de handicap ou pas, les personnes malades, les personnes vieillissantes, etc. etc. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vous disais je n'aime pas le mot inclusion, ben, je vais vous le dire, c'est parce que il me semble qu'aujourd'hui, on devrait uniquement, et c'est pas de moi, c'est de Charles Gardou, utiliser l'adjectif inclusif. En parlant d'une école inclusive, d'une économie inclusive, d'un service public inclusif, bref, d'une société inclusive. L'adjectif inclusif désigne un état de la société qui indique modularité, flexibilité, un chez-soi pour tous.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier.
Oh. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète.
Terminer mes choux de Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
respirer, finir dans le plâtre,
avaler 200 limaces pour effrayer les instits, faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je le ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour moi c'est pire que le bagne, et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter l'école.
Dans les toilettes, provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé
pour attraper des boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Laurie en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâtée du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école,
moi j'irai jusqu'à.
Waouh, ça fait du bien, ça envoie la purée. Voilà, si vous aviez des enfants à côté de vous, j'espère qu'ils en ont profité au maximum. Voilà, donc on va approcher de la fin de l'intervention, mais avant ça, je voudrais vous apporter quelques petites réflexions. Est-ce que finalement, nous pouvons dire qu'une société inclusive c'est une société qui fait plus d'intégration ? Non. En l'occurrence, une société inclusive, c'est même le contraire. Une société inclusive, c'est une société qui ne promet pas l'intégration. En effet, dans le cas de l'intégration, comme dans celui de l'exclusion d'ailleurs, il y a instauration de limites qui distinguent les « eux » et les « nous ». Alors qu'une société inclusive part du principe que le milieu se construit avec les personnes qui y sont déjà présentes, quelles que soient leurs caractéristiques. Je cite ici Jean-Yves Le Capitaine. Ça me paraît extrêmement important comme point de vue. C'est-à-dire que, à partir du moment où on promeut une forme d'intégration, en fait, c'est juste une façon différente de parler d'une forme d'exclusion. Je suis un peu radical, mais c'est-à-dire que quand on parle d'intégration, on part du principe qu'il y a un « eux », les personnes handicapées, en tout cas les personnes différentes, et un « nous ». Dans l'exclusion, on les rejette. Dans l'intégration, on tente de les faire intervenir. Mais n'empêche qu'on part du postulat de départ qu'il y a bien une limite entre un « eux » et un « nous ». Cette limite n'existe pas. Cette limite n'existe pas. Dans une société inclusive, il n'y a pas un « eux » et un « nous ». Il y a un « nous » extrêmement diversifié, extrêmement divers. Et ce « nous-là » doit être pris en compte par l'ensemble de la société. Enfin, je voudrais vous apporter une petite réflexion personnelle concernant le projet de société inclusive. Et je vais commencer par vous citer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, que beaucoup d'entre vous nous connaissent. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, en gros, en 1789, on dit les hommes, alors pas les femmes hein, à cette époque-là, évidemment, mais par les hommes, on entend les humains, me semble-t-il, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Deuxième texte que je voudrais vous citer, c'est le préambule de la Constitution de 1958, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, même si, effectivement, la question de notre Constitution se pose quand même régulièrement. Mais pour l'instant, la Constitution de 1958 est toujours en vigueur. Préambule, donc. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. En gros, notre Constitution dit la Constitution de 1789 est un texte de référence pour la Constitution française. Donc, pour notre Constitution de 1958, toujours en vigueur, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Troisième texte, le titre de la loi 2502 concernant le handicap. Je vous rappelle son titre. « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Ma question est donc la suivante. Pourquoi intituler une loi pour l'égalité des droits alors que la Déclaration universelle de 1789 et la Constitution française parlent de tous les hommes, de tous les humains? Doit-on considérer que les personnes en situation de handicap ne sont pas des hommes et donc il est important de rappeler dans une loi en 2005 qu'ils ont droit à l'égalité des droits? Dernière question, si nous vivons dans une société réellement inclusive, aurait-on pu donner un tel titre à cette loi? Voilà, j'en ai pratiquement terminé pour cette intervention. Je vous propose une dernière musique. Alors cette musique, elle a été écrite et interprétée par un aide-soignant anglais, voilà, qui s'est occupé toute sa vie de personnes ayant le syndrome de Down, que nous appelons la trisomie 21 en France. Et cette personne a écrit cette chanson, qui est une chanson très connue, pour parler de la question de la différence entre les personnes. Et c'est à force de chanter auprès des enfants qu'il a fini par être repéré, etc. Donc voilà, je vous propose cette chanson. Elle est trop bien. Et puis on se retrouve pour la conclusion juste après.
Yeah. And maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Bon, voilà, c'est pas mal, hein. Enfin bon, tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, moi, je trouve très bien. Donc voilà, je vais conclure cette intervention en vous donnant une dernière petite information, parce que j'ai beaucoup dit que ça avançait pas trop, en tout cas, que le chemin était encore très, très, très long. Alors, pendant des années, des dizaines d'années d'ailleurs, un exemple type de cette question du développement d'une société inclusive, symbolique, mais très important. Il se trouve que le secrétariat d'État auprès des personnes handicapées a toujours été rattaché au ministère de la Santé. Eh ben oui, parce que évidemment que la question du handicap était une question qui relevait d'une question de santé, puisque centrée sur la question de la déficience. Et ça n'a posé de problème à personne jusqu'à l'arrivée du gouvernement Macron. Et pour la première fois avec ce gouvernement, Emmanuel Macron donc et le Premier ministre ont décidé non plus de rattacher le secrétariat d'État auprès des personnes handicapées au ministère de la Santé, mais de le rattacher au Premier ministre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on part du principe que la question de la santé, comme la question de l'écologie d'ailleurs, est une question qui traverse tous les autres ministères et pas uniquement la question de la santé. Voilà, donc un petit exemple du fait que ça bouge. Je finirai avec une citation de Charles Gardou. Encore lui, désolé. Dans La Société Inclusive, parlons-en. Charles Gardou nous dit « La gageure d'une société inclusive est de réunifier les univers sociaux hiérarchisés pour forger un « nous ». La chose n'est pas spontanée et il est nécessaire d'opérer des brèches dans des murs. » Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse aussi méditer sur le fait que est-ce que la société dans laquelle nous vivons et facilite ou pas la question du développement d'une école inclusive ou d'une société inclusive. Voilà, je suis pas en mesure de pouvoir écouter. Je suis pas en mesure de pouvoir écouter de pouvoir vous recevoir au téléphone pour répondre à vos questions. Donc j'invite les auditeurs de Radio Alto à utiliser à la limite la page Facebook. Et puis j'invite les étudiants à utiliser le mail ou les commentaires du blog. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous.